qui se charge de sa croix chaque jour. Deuxième partie. Luc chapitre 9, verset 23. Dans notre dernière leçon, nous avons étudié les paroles de notre Seigneur Jésus en Luc chapitre 9, verset 23, où il dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Nous sommes concentrés sur l'instruction de prendre notre croix. Nous avons expliqué la signification de la croix sur le plan de sa puissance. Nous avons expliqué que cette puissance est en fait la vie ressuscitée de Jésus, dont l'activité se manifeste, même aujourd'hui, à l'intérieur de tout croyant. Chaque disciple a ainsi la capacité de communiquer la vie éternelle aux autres. L'action de se chargé de sa croix, a pour but d'être une voie de transmission de la vie de Jésus. Aujourd'hui, nous allons faire un retour sur la croix, et nous la considérerons selon une autre perspective. Nous allons l'étudier cette fois-ci selon le point de vue de sa gloire. Non seulement y a-t-il une puissance dans la croix, mais il y a aussi un aspect glorieux à la croix. Nous verrons comment la parole de Dieu le présente. Disons d'abord que l'utilisation du mot « croix » par Jésus se produit à 6 reprises dans les Évangiles. Si nous examinons chacun des 6 versets, nous faisons une intéressante observation. Chaque fois que Jésus mentionne le mot « croix », ce n'est jamais pour parler de sa propre croix. La croix est toujours mentionnée en référence à la croix des disciples, à la croix que vous et moi devons porter. Regardons ces 6 versets, afin que vous puissiez faire vous-même la constatation. Matthieu chapitre 10, verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Il s'agit de la croix du disciple. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il s'agit encore de la croix du disciple. Marc chapitre 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, que se charge de sa croix, et qui me suive. » Encore une fois, Jésus parle de la croix du disciple. Marc, chapitre 10, verset 21. L'ayant regardé, Jésus l'aima, et lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, cherche-toi de la croix, et suis-moi. » C'est encore la croix du disciple. Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. » C'est toujours la croix du disciple. Luc chapitre 14, verset 27. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » À nouveau, la croix du disciple. Voilà donc ce que nous observons avec Jésus. Dans le cas de Paul, c'est différent. Lorsque l'apôtre Paul utilise le mot « croix », il a toujours en tête la croix de Christ, et non pas la croix du disciple. J'aimerais vous lire, ici aussi, les 10 versets en question. Chaque verset nous conduit à la croix du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Car la prédiction de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Galates chapitre 5, verset 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Galates chapitre 6, verset 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Galates chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Éphésiens chapitre 2, verset 16. Et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Philippiens chapitre 2, verset 8. Et, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 3, verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Colossiens chapitre 1, verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la croix que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui substituait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Nous constatons donc que Paul parle de la croix d'une manière différente de Jésus. Il mentionne le mot « croix » à 10 reprises, et chaque fois, c'est pour montrer l'effet de la croix du Christ sur la vie des disciples. Retournons à Jésus et son utilisation du mot « croix ». Il y a un autre point important à souligner. Quand Jésus nous demande de porter notre croix, il ne faudrait pas s'imaginer qu'il fait allusion aux difficultés de la vie. Certes, les épreuves de la vie peuvent être vécues comme une crucifixion, mais ce n'est pas ce que Jésus avait à l'esprit. Une santé défaillante, la perte d'un emploi, un divorce, un accident de voiture, une faillite personnelle, tous ces malheurs sont difficiles à porter, mais ne font pas partie de la définition de la croix selon Jésus. L'instruction de prendre notre croix est une action que nous décidons d'accomplir, de notre propre gré. Je choisis de porter ma croix par la puissance et la grâce de Dieu. Cela est vrai aussi pour le Seigneur Jésus. Jésus n'a jamais parlé de la croix comme s'il s'agissait des misères qui sont survenues dans sa vie. La croix fut un choix de sa part. Il s'y est soumis de plein gré par amour pour nous. Il a dit en Jean chapitre 10, versets 17 et 18, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne l'ôte, mais je la donne de moi-même. Je donne ma vie volontairement. C'est ma décision. » Si Jésus n'emploie pas le mot « croix » pour parler de sa crucifixion, comment s'y prend-il pour aborder ce sujet? Quel mot utilise-t-il pour faire référence à l'incident qui a causé sa mort? On pourrait même se demander s'il fait mention de sa crucifixion dans ses propos. En parle-t-il? Oui, bien sûr, mais il n'utilisera pas le mot « croix ». Il y a une autre façon de s'exprimer. Quelle est cette autre façon? Voilà que nous touchons un point très intéressant. Jésus parlera de sa crucifixion comme d'un événement où il sera élevé de la terre. Jésus ne dit pas qu'il sera crucifié. Il dira plutôt qu'il sera élevé de terre. C'est de cette manière qu'il s'est exprimé en Jean chapitre 12, verset 32. « Et moi, Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Au verset suivant, il exprime sa pensée dans l'expression « être élevé de la terre ». En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Jean chapitre 12, verset 33. Jésus mourra en étant élevé de la terre, c'est-à-dire en étant crucifié sur un poteau. Regardons deux autres passages où Jésus utilise cette expression pour décrire comment il allait mourir. Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Oupso. Jean chapitre 8, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé, oupsou, le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Il est important de bien retenir ce point. Quand Jésus parle de sa mort, il utilisera le mot oupsou, traduit dans nos Bibles par le mot élevé. Mais ce petit mot n'a pas fini de nous surprendre. Oupsou peut aussi signifier être exalté ou être glorifié. Jésus, je vais vous montrer quelques exemples où oupsou est traduit par le mot exalté. Actes chapitre 2, verset 33. Ayant donc été exalté, oupsou, par la droite de Dieu, et ayant reçu de la part du Père l'Esprit Saint promis, il a répandu ce que vous voyez et entendez. Jésus a été exalté à la droite du Père. On pourrait aussi dire, comme on le voit dans certaines traductions, qu'il a été élevé pour être à la droite de Dieu. Actes chapitre 5, verset 31. C'est lui que Dieu a exalté, oupsou, par sa droite, prince et sauveur, afin de donner la repentance à Israël et la rémission des péchés. Dans quel sens Jésus a-t-il été exalté? Nous avons la réponse dans ce verset. Dieu l'a exalté en l'établissant comme prince et sauveur. Le mot « oupsou » s'applique à nous également. Jacques chapitre 4, verset 10. Humiliez-vous en la présence du Seigneur, et il vous élèvera. Oupsou. Le croyant sera élevé par Dieu lorsqu'il s'humilie. Nous trouvons la même idée en 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève. Oupsou. Au temps convenable. Dans les deux cas, l'humilité du disciple incite Dieu à l'élever, élever dans le sens de l'exalter, de l'honorer. Au total, le mot « oupsou » apparaît 20 fois dans le Nouveau Testament. Et de façon surprenante, il est parfois employé par le Seigneur Jésus pour parler de sa mort en la décrivant comme une glorification. Car pour Jésus, la crucifixion était un glorieux moment. C'est ce que nous constatons en lisant Jean chapitre 12, verset 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Le temps est maintenant venu pour que le Fils de l'homme meure, ce que Jésus exprime par les mots « être glorifié ». Dans la perspective de Jésus, sa mort sur la croix était un moment de gloire, de glorification. Voilà une vue tout à fait étonnante de la croix, n'est-ce pas? Nous connaissons le contexte de cette déclaration en Jean chapitre 12. Immédiatement après avoir fait allusion à sa mort, Jésus enseigne que si une graine ne meurt pas en tombant au sol, elle restera seule. Mais si elle meurt, elle donnera beaucoup d'autres graines. Puis, il parle de nous, Celui qui veut me servir aura à me suivre. Là où je serai, là sera aussi mon serviteur. Je suis sur le point de mourir. C'est ce qui vous arrivera aussi. Essayons d'imaginer notre réaction, comme si nous étions dans la foule qui écoutait Jésus. Je crois que les paroles du Seigneur nous auraient rendu très mal à l'aise. Jésus révèle qu'il allait bientôt mourir. Et il dit que si je suis vraiment son disciple, je devrais le suivre dans sa mort. Il y a ici une différence fondamentale entre la pensée de Jésus et notre manière de penser. Jésus considère la prise de sa croix comme une glorification. Comment voyons-nous le commandement de prendre notre croix? Est-ce que nous le considérons comme un moyen de rendre gloire à Dieu, ou est-ce un commandement qui ajoute un pénible poids sur nos épaules, comme un lourd fardeau qui suit chacun de nos pas? Vous savez, il m'arrive parfois d'entendre certains chrétiens dire « Ah, si j'avais eu la même expérience que Jésus, la même vision que Paul plutôt, sur le chemin de Damas, ma vie spirituelle aurait avancé beaucoup plus. » Ou encore d'autres disent « Si je n'étais pas marié à cette personne, je serais certainement plus épanoui spirituellement aujourd'hui. » Je dois dire que ce n'est pas une manière appropriée de penser. Il ne faut pas s'imaginer que nous pourrions atteindre une plus grande spiritualité si nous vivions une expérience particulière ou si un contexte favorable était présent. Il y a des gens qui ont eu des visions extraordinaires du Christ sans que ces visions aient changé quoi que ce soit à leur maturité. D'autre part, il y a des gens qui, en dépit de la ruine spirituelle de leur conjoint ou conjointe, sont devenus des personnes avec une exceptionnelle sensibilité spirituelle. La différence ne dépend pas du type d'expérience que vous avez, ni de vos interactions avec les gens. La différence dépend en premier lieu de l'attitude de votre cœur. Dieu peut vous transformer complètement si vous avez la bonne attitude. Mais il ne pourra rien faire avec vous si votre cœur ne présente pas la bonne disposition. Prenons l'exemple d'Élie. Le même homme, mais avec deux attitudes fort différentes. Élie était un grand serviteur de Dieu. On se souvient de lui dans le duel spirituel au Mont Carmel. Élie, seul de son camp, faisait face à l'élite religieuse du dieu Baal. Il y avait là 450 prophètes de Baal contre Élie qui les a mis au défi. Si Baal est vraiment un dieu, qu'il allume le feu sur le sacrifice. Les prophètes de Baal acceptèrent de prouver que Baal pouvait mettre le feu à l'autel. Ils prièrent leur dieu du matin jusqu'au soir, parfois avec une grande excitation, sans que rien ne se produise. Puis ce fut le tour d'Élie. Comme vous le savez, Élie pria le Seigneur avec simplicité. Et tout à coup, un feu tomba sur l'autel, et tout ce qui s'y trouva fut consumé. Nous sommes impressionnés par la conduite d'Élie. Seul, contre 450 rivaux, il a su démontrer qu'il n'y avait qu'un seul véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Personne d'autre qu'Élie ne pouvait montrer la puissance de l'Éternel Dieu d'une manière aussi spectaculaire. Mais remarquez ce qui se passa après cet événement. La reine Jézabel était en furie contre Élie pour la mort des prophètes de Baal. Avec l'esprit bouillant de vengeance, elle lui envoya un message dans lequel elle menace de le faire exécuter dans les prochaines 24 heures. Quelle a été la réaction d'Élie? Tout à coup, ce vaillant serviteur de Dieu devient l'ombre de ce qu'il était au Mont Carmel. Élie fut tellement terrifié par cette menace qu'il s'enfuit pour se cacher à l'autre bout du pays. Pourtant, c'était cet homme qui, quelques jours plus tôt, discrédita publiquement le Dieu de la reine Jézabel. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a changé entre ces deux portraits d'Élie? Une seule chose a changé entre l'homme fort et l'homme faible. Une seule chose. Un changement dans l'attitude d'Élie. Et ce changement fut causé par la menace de mort. Élie était tellement absorbé par les nouvelles circonstances de sa vie qu'il n'a même pas songé à s'appuyer sur la protection de Dieu. Ce Dieu dont il vient tout juste de démontrer la puissance. Il s'est produit un changement fondamental dans son attitude, et c'est ce qui a entraîné une réaction diamétralement opposée. Dans mon travail de médecin, j'ai soigné des patients qui ont été affectés par la maladie ou par un accident. Malheureusement, il arrive parfois qu'un patient se retrouve avec des séquelles physiques permanentes. Ces situations m'amènent à observer toutes sortes de réactions. Et je suis souvent étonné de constater que pour un même handicap, le dénouement peut varier énormément, dépendamment de l'attitude du patient face à l'affaiblissement de son corps. Ceux qui refusent d'accepter leurs nouvelles conditions vont presque à coup sûr développer des sentiments négatifs comme l'amertume, l'anxiété, l'insomnie, l'irritabilité, le désespoir, la colère, le sentiment d'injustice, la perte de motivation. Ces sentiments empoisonnent leur esprit et les empêchent de se reconstruire et d'avancer dans la vie. Mais il y a des patients qui ont une toute autre attitude. Ceux-ci en sont venus à accepter leurs limitations fonctionnelles. Et cela rend tellement plus facile la transition vers leur nouvelle vie. Il est évident, en les observant, qu'ils ont fait la paix avec ce qu'ils ont perdu. Ils peuvent maintenant regarder vers l'avant et prendre plaisir à nouveau à la vie. Même handicap, deux réactions opposées. On pourrait parler aussi d'une même calamité, mais de deux réactions différentes. Vous vous rappelez de Job et sa femme? Après toute leur perte, Job pouvait encore dire « Dieu m'a tout donné. Maintenant, Dieu a tout repris. Que son nom continue à être béni. » Sa femme a réagi très différemment. Elle dit à Job « Pourquoi as-tu encore la foi en Dieu? J'aimerais mieux renier Dieu et mourir. » Le même message, des réponses différentes. Chez certaines personnes, la parole de Dieu ne produit aucun fruit. Chez d'autres, il y a une croissance de 30%. Chez d'autres encore, la croissance atteint 60%. Certains même arrivent à atteindre le 100%. Pourtant, il s'agit de la même parole, du même Dieu, de la même puissance. Où se trouve la différence? Dans le sol, dans la qualité du sol. La croissance est fonction de la réceptivité de notre cœur à la parole de Dieu. On pourrait dire que la puissance de Dieu est limitée dans son efficacité par nous, par notre attitude. Quelle est votre attitude par rapport à la croix? Comment voyez-vous le commandement de prendre votre croix? Pour Jésus, sa crucifixion fut un glorieux moment. C'est la raison pour laquelle il n'utilise pas le mot « croix » pour parler de sa mort. Il préfère y référer en la décrivant comme une glorification. On se rappellera de Jean chapitre 12, verset 23. Il s'agit du moment où le Fils de l'homme sera glorifié, a-t-il dit. Ce passage en Hébreux chapitre 12, verset 2, nous fait apprécier davantage la perception de Jésus de la croix. Voici ce que nous lisons. Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte et est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus avait en vue une grande joie qu'il avait hâte de goûter. C'est ce qui lui a permis d'endurer la croix. Jésus se réjouissait en pensant à la croix, non pas parce qu'il se plaisait à souffrir, mais bien parce que la croix allait accomplir le but pour lequel il est venu sur terre, c'est-à-dire la rédemption de l'humanité. La croix constitue une source de gloire et constitue aussi une source de joie pour Jésus. Cette perception de la croix se trouvait aussi en Paul, et c'est ce qui lui permettait de dire « J'ai accepté de tout perdre et je considère toutes choses comme des ordures. » Philippiens chapitre 3, verset 8. Pour Paul, il y avait une gloire à souffrir avec Christ. C'était un privilège de marcher aux côtés de son Seigneur sur le chemin de la souffrance. Enfin, il va jusqu'à dire que la croix de Jésus est la seule entité dont il se glorifie en tant que croyant. Galates, chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Paul se glorifie dans la croix du Seigneur Jésus à cause de ce qu'il a accompli dans sa vie. Par la croix, le monde est crucifié pour lui et lui pour le monde. Cette attitude est celle que nous devons adopter en prenant notre croix. Nous la voyons comme une source de gloire pour Dieu. Comment est-ce possible? Cela est possible car la croix est le moyen par lequel se communique la vie. La vie éternelle passe par la croix avant d'atteindre les autres. En mourant comme cette graine de blé, nous contemplons avec joie la moisson à venir. Si le grain meurt, il portera du fruit en abondance. Jean chapitre 12, verset 24. La vie de Dieu passe au travers de nous pour se rendre dans le cœur des hommes réceptifs à la parole. Pouvez-vous percevoir ici la gloire de Dieu? Si vos yeux vous permettent de reconnaître cette réalité, alors vous n'hésiterez pas. Vous allez prendre votre croix avec empressement, et par cette action, la gloire de Dieu se manifestera dans votre vie.